Chapitre 72. Les membres de l'unité d'intervention ont mis leur masque à gaz et, à couvert derrière le silo, deux opérateurs s'approchent prudemment du bâtiment, leurs fusils automatiques levés. Le train glisse lentement à travers la végétation derrière le hangar. Les wagons sursautent l'un après l'autre au passage des aiguillages, comme si une impulsion électrique parcourait tout le convoi. À travers la caméra de jour du drone, Yuna observe la façade sale couverte de graffitis et de panneaux de contreplaqué humides cloués devant les ouvertures des fenêtres. La porte d'entrée a été arrachée et repose comme une rampe sur les deux marches. « On s'approche !» dit le commandant UAS. Le drone plane lentement vers l'ouverture, à 1 mètre au-dessus du sol. Dans la pénombre, on aperçoit un paillasson marron, des traces de chaussures boueuses, des caisses de vin vides et un imperméable jaune suspendu à un crochet. Sur les images de la caméra thermique, Yuna voit la masse amorphe au rez-de-chaussée qui commence à bouger, se déplace légèrement sur le côté, puis s'étire lentement. Quelque chose cloche dans cette silhouette. Il pense brièvement à l'homme squelette avant que la masse orange vif ne se divise en deux. Un berger allemand surgit de la porte et bondit vers le drone. Le pilote fait grimper brusquement l'appareil, l'une des hélices heurte le bord du toit, le drone bascule, percute la paroi lisse du silo et s'éteint. Putain ! Le chef d'intervention donne le feu vert pour l'assaut. Deux fenêtres barricadées sont défoncées simultanément. Plusieurs grenades lacrymogènes explosent à quelques secondes d'intervalle. Yuna quitte sa voiture, arme son pistolet et court en direction du silo. Le chien aboie férocement. Plus loin, les opérateurs se séparent et avancent rapidement vers la maison en pointant leurs fusils automatiques. 3 coups de feu saccadés résonnent, l'écho claque entre les bâtiments. Yuna contourne le silo et voit le chien étendu au sol. De la fumée grise s'échappe de la porte. Les opérateurs pénètrent dans le bâtiment en couvrant leurs angles de tir. Yuna court. Le gravier gelé crisse sous ses bottes. Il communique avec Jamal tout en approchant de la maison. « J'entre derrière vous » dit-il. « J'entre derrière vous !» Il enlève son bonnet, le presse contre son nez et sa bouche et franchit l'ouverture. Devant lui, des faisceaux lumineux balaient la fumée dans une grande pièce au papier peint abîmé. Yuna tourne immédiatement à droite et traverse une pièce équipée d'une douche. Près d'une machine à laver, 2 haches neuves reposent dans un seau rouge. « Police, arrêtez-vous !» crie Jamal plus loin dans la maison. La fumée des lacrymogènes brûle les yeux de Yuna alors qu'il pénètre dans une cuisine délabrée. L'évier est rempli de papier toilette ensanglanté. Des gamelles vides traînent sur le sol et un paquet de pain à hot-dog repose sur la table à côté d'une canette de bière. Yuna entend des pas précipités et aperçoit un homme aux longs cheveux gris filer vers la porte. La lumière d'une arme clignote dans la cuisine. Un opérateur apparaît dans l'encadrement. Yuna croise son regard et indique la direction. Des bruits métalliques montent le long des tuyaux. Yuna tourne rapidement son pistolet en direction du vestibule, rebrousse chemin et pénètre dans une grande pièce avec un escalier étroit menant à l'étage. 2 douilles de grenades lacrymogènes gisent sur le sol en bois. Le plancher grince et de la poussière tombe du plafond. Jamal et un opérateur le rejoignent. « Il est monté !» dit Yuna. « Alpha monte avec moi. Les autres restent au rez-de-chaussée !» ordonne Jamal par radio. Tous 3 grimpent l'escalier en file indienne, puis progressent entre des armoires déplacées et des vieux canapés. L'étage est plus sombre, l'air plus chaud, saturé d'une odeur de poussière. Une toux étouffée leur parvient d'une pièce sur la droite. Jamal s'élance, ouvre la porte, son arme pointée vers la gauche, tandis qu'Alpha sécurise l'angle droit. Jonah les suit, son pistolet pointé droit devant. Ils ont juste le temps d'entrevoir l'homme aux cheveux longs filer dans une pièce adjacente et refermer la porte derrière lui. Des bruits de pas retentissent. Jamal se place contre le mur, enlève son masque et appuie sur la poignée. La porte est verrouillée. Yuna s'avance et balance un violent coup de pied. La porte éclate. Des débris de bois et de métal sont projetés sur la moquette. La pièce est vide. Des pots de peinture sont alignés contre un mur. Yuna comprend que l'individu a filé dans une autre pièce et a emprunté un couloir de service pour partir en sens inverse. Il fait brusquement demi-tour, revient en courant sur ses pas et intercepte l'homme avant qu'il n'atteigne l'escalier. « Arrêtez-vous !» L'inconnu plonge derrière un rideau en plastique et se précipite vers un couloir sombre. Le faisceau lumineux des fusils d'assaut balaye le sol. Jamal et Alpha arrivent de l'autre côté. Leurs yeux brillent dans l'obscurité. Yuna arrache le rideau, indique le couloir et tous trois avancent en fil serré le long du lambris écaillé. Les lattes du plafond se délitent. L'une repose déjà sur le sol, une autre pend dangereusement. Une porte claque quelque part dans la maison. Yuna repousse la planche suspendue et s'écorche le bras contre un clou saillant. Il s'arrête à l'extrémité du couloir, échange un regard et pénètre dans une grande pièce. Celle-ci, ornée d'une rosace au plafond et d'une fenêtre cintrée donnant sur la voie ferrée, possède deux portes. La porte de gauche est bloquée par des cartons de déménagement. Ils perçoivent comme des grattements, s'arrêtent et écoutent. Une toux étouffée leur parvient depuis la porte de droite. Jamal s'approche, décroche une grenade assourdissante de sa ceinture. Alpha le couvre. Yuna baisse son arme. Du sang coule sur le dos de sa main. Jamal retire la goupille, entr'ouvre la porte, lance la grenade et referme avant de reculer. La détonation éclate et une lumière intense jaillit par l'entrebrasure de la porte. Le sol tremble sous le souffle et des éclats de peinture tombent du plafond. Un cri guttural retentit. Jamal ouvre la porte et voit l'homme ramper sous un lit au matelas sale.
« Police, sortez de là !»
crie-t-il en se mettant à genoux, son arme pointée sous le lit. Pendant qu'Alpha entre dans la chambre, Yuna s'approche des cartons et les dégage d'un coup de pied. De la poussière vole, des classeurs et des papiers s'éparpillent. Jamal renverse le lit. L'homme aux cheveux gris a disparu par un trou dans le mur. Yuna ouvre l'autre porte et entre dans une grande pièce avec des étagères vides. Il voit l'homme qui se relève maladroitement.
« Police, arrêtez-vous !»
dit Yuna en visant sa poitrine. Ses cheveux sales lui couvrent partiellement le visage. Il saigne des oreilles à cause de l'explosion et semble aveuglé. Il porte plusieurs couches de vêtements amples et ses bottes en caoutchouc sont rafistolées avec du ruban adhésif. Une forte odeur de transpiration et d'urine séchée émane de lui. L'homme bascule vers l'arrière, heurte un poêle en faïence blanc, cligne péniblement des yeux et sort un couteau au manche en plastique bleu.
« Jette ça par terre !» ordonne Yuna. « Va te faire foutre !»
râle l'homme en agitant son couteau. Jamal entre derrière Yuna, fait un pas de côté et met l'homme en joue.
« Personne ne tire !» dit Yuna.
Sous la menace de leurs armes, l'homme finit par baisser la sienne. Son ombre ondule lentement sur les murs marqués de rectangles plus clairs, là où des tableaux étaient autrefois accrochés. Yuna rengaine son pistolet et lève les mains.
« Jette ton couteau, » dit-il en s'approchant lentement.
« Lâche ton couteau, croise les doigts derrière la tête et tourne-toi. » L'homme fait un mouvement brusque et tente de l'atteindre. Yuna l'esquive, détourne son bras, attrape son poignet, puis enfonce son genou dans la poitrine de l'homme. Le couteau tombe au sol dans un bruit métallique et glisse derrière un panier vide. Agrippant toujours son poignet, Yuna déséquilibre l'individu qui chute brutalement sur le dos, sa tête heurte le sol. De la salive et de la morve éclaboussent son visage sale. Yuna lui tord le bras de manière à lui relever l'épaule, puis le fait rouler sur le ventre pour le menotter dans le dos. L'homme inspire bruyamment, comme s'il avait été trop longtemps sous l'eau, reprend son souffle et se met à tousser en haletant.